dos, tres, cuatro.
Vertigo sur la première.
Bonjour Hans-Ulrich Schlumpf.
Bonjour Nicolas, merci. M'a invité.
Mais oui. Plaisir que vous ayez répondu à cette invitation parce que vous êtes un homme très occupé. Vous étiez il y a quelques minutes de cela à la Cinémathèque Suisse à Lausanne pour inaugurer le cycle qui vous est consacré, introduire le film Transatlantique, film de 1983. Vous y retournez à 18h30 pour présenter Ultima Thule, un de vos films les plus récents. Et puis à 21h également pour un troisième film, Le Congrès des Pingouins de 1993. Grosse journée pour vous, pour vos films. On vous remercie de faire un saut par nos studios. C'est pas la première fois qu'on peut voir vos films à la Cinémathèque, mais c'est peut-être la première fois qu'on les voit qu'on peut en voir autant à la suite. Et puis surtout, eh bien, ça correspond à une campagne de numérisation, de restauration de certains de vos films en vue de la parution prochaine d'un coffret de DVD, la collection Hans-Ulrich Schlumpf. Alors voilà pour le contexte, un cycle, un coffret DVD pour le public, mais également pour vous, c'est peut-être l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur votre œuvre. Est-ce que c'est un exercice agréable?
Oui, je dois dire, je suis très content avec moi.
Oui, c'est bien.
J'ai fait des erreurs, c'est clair, beaucoup des erreurs, mais en tout, je suis très content avec mon travail. Je regardais maintenant pendant 14 mois de plus en plus mes films. Et j'étais tout de même content de ce que j'ai fait. Et c'était surtout aussi l'expérience de les faire. Ça, mmh. C'est le comble. Mmh. L'expérience de faire du cinéma, c'est vraiment un cadeau. Je suis, si vous voulez, un peu gâté parce que je pouvais faire une dizaine de films qui sont maintenant dans cette collection que j'aime beaucoup et que je peux recommander sans devenir rouge.
Une dizaine de films, plus quelques autres. En vérité, ça fait à peu près une quinzaine de films en presque 50 ans d'activité.
C'est 26.
26, oui. Si on compte, oui, tous les téléfilms. Et les...
Oui, et, si on compte... et encore trois films que j'ai produits.
Alors, on n'est pas au courant de tous.
Non, pas
absolument.
Du tout. C'est un choix qu'on voit à la Cinémathèque et c'est un choix qui est dans cette coffret.
Et ce choix, il représente un certain nombre de décennies de travail avec un rythme parfois assez lent entre un film à l'autre.
Ah,
est-ce,
oui,
que c'est votre rythme naturel ou est-ce que c'est simplement le rythme qu'on a quand on est un cinéaste indépendant et qu'on cherche à financer ses films,
oui,
les uns après les autres?
C'est ça la raison.
Oui.
C'est ça que dure toujours très long, quelquefois trois ans, d'autres fois une année. C'est vraiment, c'est très dur de trouver l'argent. Mmh. Et j'en ai marre.
Je comprends.
Oui.
Surtout au bout d'un certain temps.
Oui, j'ai maintenant 77 ans. Et comme ça, je ne veux plus. Mmh. Je ne veux plus faire les honneurs pour avoir de l'argent. C'était très gentil que je pourrais produire cet coffret avec l'appui, entre autres, de la Cinémathèque Suisse. Mais je ne veux plus financer un film d'un ou deux millions parce que c'est trop dur en Suisse.
C'est toujours aussi difficile, ça ne s'est pas amélioré?
Non, c'est même devenu pire parce qu'il il y a deux choses qui se passent maintenant. Les budgets deviennent de plus en plus gros, mmh, et en même temps, la concurrence est très, très grande entre les jeunes. Et ça, c'est plus la situation qu'on commençait il y a 50 ans.
Oui.
Là, on était les pionniers. Maintenant, on est les vieux, mais les jeunes, ils ont une concurrence, un combat entre eux qui est assez dur.
Mmh. Oui, c'est étonnant. On pourrait penser qu'effectivement, puisque vous faites partie des vieux, comme vous dites, la consécration étant arrivée, ce serait plus facile. Mais effectivement, entre-temps, la concurrence s'est accrue.
Oui, c'est aussi parce qu'il y a un principe en Suisse. Ça veut dire on encourage les projets concrets.
Mmh.
Ça veut dire chaque projet est de nouveau une nouvelle construction. Il faut le commencer à zéro.
Mmh.
Avec le financement. C'est dans d'autres pays, c'est un peu différent. Bon, il y a maintenant aussi le remboursement sur les entrées, mais en tout, c'est tout de même toujours commencé à zéro. Et c'est dur.
Oui, oui, c'est sans doute aussi le choix le plus difficile que vous avez fait parce que vous avez été photographe, vous êtes très intéressé par la peinture. On pourrait imaginer que d'autres arts plus faciles peut-être vous aient attiré, mais vous avez choisi le cinéma et vous avez bien fait. Cette œuvre qu'on découvre, Hans-Ulrich Schumpf, je me permets de la nommer ainsi, cette œuvre, c'est donc une dizaine de films qu'on pourra voir à la Cinémathèque, dans ce coffret également DVD. Ce qui m'a frappé, moi j'en ai vu quelques-uns, c'est la cohérence de l'ensemble, à la fois dans des sujets, des traitements très différents, on trouve des constantes. Alors, il y a différentes choses, on va en parler. Il y a une équipe fidèle de comédiens, de techniciens, de musiciens également. Mais il y a surtout des thématiques, des interrogations qui donnent le sentiment que d'un film à l'autre, on peut établir un dialogue.
Oui, c'est vrai, je pense aussi. Mon premier film que j'avais fait en 1964, c'était un film écologique. Et j'étais un des premiers qui ont fait un film écologique. Mmh. C'était encore Henri Brand avec ses 5 films pour l'exposition nationale. Mais moi et lui, c'était les premiers qui ont fait des films sur ce thème. Et le Concret de Pingouin, c'est, si vous voulez, la fin de cet développement.
Et Ultima Thule également.
Oui, d'une totalement autre façon, parce que ça retourne chez l'homme qui est responsable pour ce qui se passe sur le monde au moment.
Ça m'a frappé cette ressemblance entre certains films, notamment ces deux derniers, le Congrès des Pingouins et puis Ultima Thule, que de nombreuses années séparent. Dans le Congrès des Pingouins, il y a une interrogation dans la voix off qui dit « Est-ce que nous ne serions pas le rêve des pingouins ?» Et en exergue de votre film Ultima Thule, Hans-Ulrich Schlumpf, vous mettez un poème chinois qui demande également « Est-ce que nous ne serions pas le rêve d'un papillon ?»
Oui. Vous êtes génial. Vous avez
j'ai fait mon travail.
Vous avez trouvé quelque chose que vous êtes le premier qui dit ça, mais c'est tout à fait vrai. C'est vraiment une fois on demande si nous sommes le cauchemar des pingouins, vous savez,
oui,
au fond.
Oui.
Et l'autre, c'est cette fable ou comment on dit cette petite histoire de Lao Tse, où il dit « Je ne sais pas si je suis un papillon qui rêve d'être un homme ou je suis un homme qui rêve d'être un papillon.
Mmh. » Ouais. Toutes ces questions, on va en parler pour que les auditeurs comprennent de quel genre de film on parle. On vous présente Hans-Ulrich Schlumpf comme un pionnier du cinéma documentaire en Suisse, mais je trouve, pour avoir vu certains de vos films, que cette catégorie est très réductrice parce que dans vos films, on a cette frontière extrêmement floue constamment entre le documentaire et la fiction. C'est un travail constant qui vous passionne, j'imagine, d'aller chercher la fiction dans le documentaire et vice-versa.
Oui, je trouve que l'écart entre les deux genres n'est pas si grand qu'on pense. Mmh. Parce que Godard a dit « un film est un film est un film ». Ça veut dire c'est l'identité du film qui est important. Naturellement, on travaille avec des acteurs si on fait la fiction. Naturellement, on invente des histoires si on fait la fiction. Mais aussi au documentaire, vous racontez une histoire.
Oui.
Aussi au documentaire, vous êtes un narrateur qui fait une narration.
Et metteur en scène, oui.
Et metteur en scène. Et quelquefois, les protagonistes sont des pingouins. Et d'autres fois, c'est un homme. La troisième fois, c'est des hommes, comme Kleine Freiheit, où c'est des différentes personnes qui travaillent leurs hobbies. C'est pas si différents les genres pour moi. Mais c'est clair, il y a la tradition de fiction, par exemple française, que je connais très bien parce que, comme étudiant, j'ai toujours vu les cycles du cinéma français à Zurich, dans le Nord-Sud, qui était spécialisé dans l'été de montrer ces films. Et je connais presque tout des grands modèles pour moi étaient, par exemple, Orphée
de Jean Cocteau.
De Jean Cocteau ou Resnais, les films de Resnais, le film de... Je les connais tous et je connais un peu la tradition, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer autre chose. Mmh. Et j'ai essayé de créer mes films.
Alors vos films, Hans-Ulrich Schlumpf, avec ce rapport très mystérieux entre la fiction et le documentaire, on va essayer de comprendre comment les choses s'articulent. On va prendre l'exemple de Transatlantique, si vous voulez bien.
Le bateau, une maison flottante de 10 étages où je m'égare encore. En deuxième classe, je suis à l'aise. En première, j'ai accompagné une passagère brésilienne. Les stewards me regardent avec méfiance. Vous vous rendez compte? Je suis là, sur ce bateau. 40 ans après Lévi-Strauss. C'est complètement fou. Tout près des Indiens. Je vais enfin savoir ce qu'ils sont vraiment devenus. Tariq, c'était un général nord-africain qui est venu avec 12 000 soldats arabes pour conquérir...
Vous, avec vos vieilles histoires.
Mais c'est très important, tu sais. Tout ce que je pense, tout ce que je dis, c'est lié à ce qui a été fait avant, à ce qui a été dit avant. Tout se tient.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis ce que je suis. Tu sais ce qu'il dit, mon père? Le passé ne l'intéresse plus. Vivre au présent, c'est sa devise.
Ah oui?
La musique de Baden-Powell et quelques extraits de ce film transatlantique que vous avez signé en 1983, Hans-Ulrich Schlumpf. Alors dans ce film, pour résumer, vous nous racontez une histoire, une fiction, avec ce personnage incarné par Roger Yenli, qu'on a entendu, qui quitte sa femme à Zurich, s'embarque sur un bateau de croisière italien à Gênes, traverse l'Atlantique pour se rendre au Brésil. Alors au début du voyage, il tombe amoureux sur le bateau d'une jolie brésilienne. Tout cela est de l'ordre de la fiction, mais les autres passagers qu'on rencontre, l'équipage, les cuisiniers, les voyageurs, eux, ne sont pas joués par des acteurs. Alors comment, dans un cas comme celui-là, vous avez réussi à insérer une fiction dans une sorte de documentaire et faire en sorte que les passagers soient d'accord de collaborer?
Oui, c'est un travail de mes deux assistantes réalisateurs qui travaillaient chaque jour en parlant avec tout le monde sur le bateau et de chercher des gens qui représente une partie de ce bateau, parce que j'ai commencé avec l'idée d'un film sur un bateau de ligne. Mmh. Et ça se fond sur le livre Les Tristes Tropiques de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss, où ça commence, ce livre, avec la fin de voyage. Et je voulais faire un film sur la fin des voyages des bateaux de ligne, parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est tous des croisières.
Oui.
Et il n'existe presque plus les bateaux de ligne.
On ne peut plus faire ce film.
Non, on ne peut plus, non. Parce que c'était, par hasard d'ailleurs, ce n'était pas prévu, mais par hasard, c'était vraiment la dernière ligne de cet bateau. Oui. Et pour moi, se poser le problème, une expérience que j'ai fait personnellement, que dans ces 10 jours, il y a un type des histoires sur un bateau, des histoires d'amour très, très,
très intense,
des amours fous, oui. Si vous voulez. Hein? Et je voulais faire un approach, je voulais montrer ce bateau dans tous ces détails, mais en même temps, je voulais montrer une histoire typique pour le bateau, c'est un amour vite ou transitoire, si vous voulez, parce que c'est les 10 jours que ça passe. Après, on ne sait jamais comment ça finit. Hein. Mais on ne peut pas faire du documentaire sur une histoire d'amour qui est réelle. C'est ça le problème.
Oui.
Et c'est pour ça que j'ai inventé un couple qui a cette affaire d'amour. En même temps, je faisais de lui un ethnologue qui rectifie ou qu'il peut interviewer les gens et parler avec les gens.
Oui, qu'est-ce parce qu'il a son petit magnétophone et il va rencontrer les passagers,
c'est
les
ça.
Vrais passagers du bateau.
Oui, les vrais passagers. et il les demande d'où vous venez, d'où vous allez. Ça veut dire, c'est les questions de la vie. Mmh. Hein. Et en même temps, j'ai beaucoup d'envie d'osciller ou de faire des hybrides entre la réalité et la fiction. Et quelquefois, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Quelquefois, c'est aussi la fiction qui dépasse la réalité, on doit dire.
Oui, parce qu'il y a, dans ce bateau des personnages assez étonnants que vous nous présentez. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, on comprend que vous êtes parti de l'idée documentaire et par un stratagème de fiction, vous avez pu réaliser cela parce qu'on aurait pu imaginer les choses dans l'autre sens et puis se dire, mais finalement, le personnel du bateau aurait pu être aussi incarné par des acteurs. Mais c'était pas votre but. Vous vouliez nous montrer toute la machine du bateau. On c'est suit ça. D'ailleurs vos personnages de fiction dans les entrailles du bateau, dans la machinerie du bateau. Et ça, c'est un peu le symbole aussi de ce que vous faites avec ce film en nous décortiquant tout cet univers du bateau.
Tout à fait. Et comme il est ethnologue, il écrit aussi, il pense, il réfléchit sur le bateau. C'est aussi une possibilité d'expliquer comment ça fonctionne sur un bateau comme ça. Par exemple, l'étage des chefs, l'étage de commande et tout ça. Oui, c'est un hybride, mais il y avait une raison pourquoi j'ai choisi cette forme. Mmh. Ça veut dire que je voulais faire ce film et après, il faudrait une solution pour l'histoire d'amour.
Alors sur cette question de ce qui vient en premier dans votre création Hans-Ulrich Schlumpf, je me posais la même question à propos du congrès des pingouins. On écoute un petit extrait de ce film et on en parle tout de suite après.
D'abord, ce ne fut qu'un son. Puis je les vis. Un cortège de petites silhouettes noires qui semblaient aller avec résolution vers un point précis. Ils marchaient en bon ordre, sans la moindre hésitation. Soudain, je réalisais qu'ils venaient vers moi. C'était à moi qu'ils en voulaient. Les instruments m'étaient familiers. Celui-là puisait des échantillons d'eau et en mesurait le cytidi. Conductivité, température, profondeur. Nous voulions savoir quelle influence cette partie des mers exerce sur le climat du globe. Nous voulions savoir si nous étions vraiment à l'origine des changements observés partout par nos instruments. Les pingouins, il me fallait leur demander pardon. Il me fallait leur dire plus jamais ça. Mais comment m'y prendre? Quel est leur mot pour pardon?
Voilà, extrait du Congrès des pingouins en 1993, film pionnier, Hans-Ulrich Schlumpf, puisqu'il précède de plus de 10 ans le film de Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur, film documentaire sur le manchot empereur qui a connu un immense succès. Ce même Luc Jacquet qui a collaboré avec vous sur ce film, le Congrès des pingouins, un film qui utilise des éléments du style documentaire animalier, on suit vraiment ces animaux, mais pour nous livrer une réflexion plus globale sur notre rôle vis-à-vis de la nature, sur la prédation qu'ont subi des générations de pingouins de l'Antarctique, témoins à la fois du réchauffement climatique et de la violence des hommes. Qu'est-ce que vous alliez chercher en faisant ce voyage? Est-ce que vous aviez déjà tout cela en tête?
Oui, c'était le premier et le dernier film où je ne faisais pas des repérages parce que c'était trop
impossible,
cher.
Trop cher.
C'est pas possible. En ce cas-là, j'ai tout fait dans ma tête. Ça veut dire que j'ai lu des livres sur l'Antarctique, j'ai vu des films sur l'Antarctique, j'ai parlé avec des gens qui sont dans la recherche du climat dans l'Antarctique. Par exemple, Hans Oeschger à Berne qui est mort, qui était un des grands, c'était le concurrent de Lorius en France. Ça veut dire, j'ai parlé avec beaucoup de gens et j'ai écrit un livre et vous serez assez étonnés comment proche le livre est à la fin du film. Oui. Mais c'était tout dans ma tête. Par exemple, le cinéma de Grytviken qu'on voit qui commence avec une séquence très importante.
Oui, c'est ce port désaffecté qui était un port de baleiniers dans les années 30. Et vous nous montrez d'ailleurs une archive de ces activités humaines et puis vous le retrouvez complètement délabré, avec un cinéma aussi délabré.
C'est ça. Et ce cinéma, pour moi, c'était une possibilité d'introduire le passé. Ça veut dire en projetant un film ancien dans ce cinéma détruit, on peut plus projeter là, dedans, mais dans la tête de mon rêveur, mon protagoniste, il voit le passé de la chasse aux baleines et c'était une possibilité d'entrer dans un monde très féroce, très dur. Ils ont même utilisé des pingouins comme brûlants.
C'est oui, vraiment... pour brûler dans les chaudières, les brûler vifs.
Oui, s'il y avait plus
de charbon.
De charbon, il y avait le... Ils ont pris des pingouins parce qu'ils ont plein de graisse qui brûle très bien. C'est affreux, vous savez, c'est oui, vraiment absolument. Affreux. Et ça montre, vous savez, il y a un film de Stroheim qui s'appelle Greed. Et c'est ça, c'est Greed. Je sais pas le mot.
L'appât du gain, oui.
C'est vraiment notre... notre
cupidité,
notre oui, et aussi notre caractère, si vous voulez, si on voit les gens qui courent pour l'argent d'une façon incroyable, non, c'est vraiment, c'était un essai de montrer les grands problèmes de ce monde, et ce sont les problèmes écologiques. Oui. Parce que nous sommes en train de détruire ce monde. Et c'était tout de même 23 ans. Il y a 23 ans que j'ai fait ce film.
Oui.
Et dans l'époque, c'était pas encore courant. Maintenant, c'est un peu mieux. Les gens ici en Europe, ils savent ce qui se passe. Dans les États-Unis, nous avons un président stupide qui néglige ce qui se passe dans le monde. C'est grave.
Ouais, ouais. Et la conclusion de votre film, là aussi, est tout à fait saisissante, puisqu'on se rend compte que même dans les expéditions écologiques, on a un impact non négligeable sur la nature.
Vertigo, Nicolas Julliard.
Hans-Ulrich Schlumpf, on a parlé de certains de vos films et du rapport entre la fiction et le documentaire qui les anime. Et dans ces films, il y a ce que j'ai pu voir aussi dans la plupart de ces films, il y a un personnage central, un personnage d'un homme d'âge mûr, entre 40 et 50 ans, un homme qui se cherche un autre destin, soit par l'art, soit par le voyage, par le rêve. Qui est ce personnage ?
C'est moi.
C'est vous. Je m'en doutais.
Non, c'est un parti de moi.
Oui.
Ça veut dire, le modèle, c'est un modèle romantique. Ça veut dire, j'ai beaucoup d'admiration pour des peintres comme Caspar David Friedrich, pour Magritte, pour Klee aussi, mais Klee n'est pas dans ce sens-là impliqué. Mais chez Caspar David Friedrich, je peux démontrer pourquoi. On voit cette personne, par exemple, dans le concret de dos.
Oui.
Ça veut dire qu'on ne le voit presque jamais de devant. On ne voit pas sa visage.
C'est une silhouette, oui.
C'est une silhouette. C'est quelqu'un qui regarde le paysage et qui est ému et qui est pris par ce paysage. Ça veut dire qu'on le voit plutôt dans les mouvements du corps que dans le visage, que c'est normalement la fiction. J'ai repris ça avec Ultima Thule, mais là, j'avais un acteur qu'on voit le visage. Ça, c'était un développement vers le visage, si vous voulez.
Oui. Et ces personnages masculins qui se cherchent comme ça un nouveau destin, c'est quelque chose qu'on trouve même dans certains de vos films plus clairement documentaires, comme ce film consacré à Armand Schultes, cet artiste d'art brut. Il faut qu'on raconte un tout petit peu ce film et ce personnage, parce que ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec cet art et cette personne, Armand Schultes, cet artiste disparu en 1972, qui a rempli son domaine, une forêt du Tessin, de plaques sur lesquelles il a inscrit toutes sortes de messages scientifiques ou autres.
C'était un ami de moi qui est peintre, qui habite à Verchaux. Il est mort maintenant. Mais à l'époque, au commencement des années 60, Il m'a dit, quand je lui fait visiter ou a fait une visite chez lui, il a dit, je te dois montrer quelque chose absolument unique. Une chose absolument unique.
Oui.
Et il m'a mené dans ce parc de Armand Schultes et j'étais pris par le moment parce que c'était un monde tellement rêveur, tellement d'autres mondes, tellement pas suisse, hein, c'est le contre. Et au fond, il était un petit Suisse comme le cliché.
Oui, mais un fonctionnaire bernois.
Oui, absolument. Un fonctionnaire, il avait avant il avait des magasins de mode pour femmes. Ça veut dire, c'était une personnalité qui a créé sa propre monde contre tous les idées d'un fonctionnaire, contre toutes les idées d'une personne normale, en guillemets, hein, parce qu'il était, il n'était pas fou, il était seul.
Oui.
C'était son problème qu'il était seul et il a créé un monde par lequel il voulait parler avec les gens. Ça veut dire, sur beaucoup des plaques qu'il y avait, écrivez-moi, téléphonez-moi, des choses comme ça. Mais il n'a jamais répondu.
Hein. Oui, c'est ça qu'on comprend, c'est que dans votre film, vous expliquez que, au fond, il écrivait tout cela parce qu'il ne parlait plus à personne. Votre film s'intitule Armand Schultes, j'ai le téléphone, mais c'est vrai qu'il ne parlait plus.
Oui, il avait un téléphone, mais ça ne fonctionne plus.
Oui.
Oui. Il y avait toujours cette questo collegamento non è più in esercizio.
Oui, la ligne n'est plus en service. Oui.
Oui. Et ça c'était, il avait plus la possibilité de parler avec les gens. Et il était très, très retiré, introverti, mais il a créé un monde et il a créé une bibliothèque sexuelle qui est absolument incroyable. C'était 75 volumes, tous écrits à la main ou avec la machine à taper et avec des images, une bibliothèque absolument incroyable. Mais les héritiers ont brûlé presque tout. Je pouvais sauver une douzaine de ces bouquins qui sont maintenant... J'ai fait un livre sur lui dans l'édition Patrick Fry.
Oui.
La reconstruction d'un monde où ces livres sont dans des extraits sont montrés.
Ce qui est frappant dans le cas d'Armand Schultes, comme dans d'autres de vos personnages, à la fois de documentaire et de fiction, Hans-Ulrich Schumpf, c'est la façon dont ce personnage était fasciné par la science. Tous ces personnages que vous nous montrez ont des rêves scientifiques. Ils veulent être explorateurs, chercheurs. Est-ce que ça aussi, c'est un de vos vieux rêves ?
Oui, bien sûr, j'étais dans mon temps comme gymnasiaste, j'avais toujours des animaux dans ma chambre, des crapauds, des serpents, j'étais comme beaucoup de gens jeunes, hein, et j'avais aussi l'intention à un certain moment d'être un chercheur scientifique, mais à la fin, c'est beaucoup plus l'art qui m'intéresse, la création de quelque chose de nouveau, comme Armand Schultes. Hein.
Oui.
Il a fait quelque chose de nouveau. Et je cherchais aussi de faire quelque chose de nouveau.
Mm-hmm.
Ça veut dire aussi, mes films sont, si vous voulez, de faire un film sur un bateau de lignée, c'est une invention tout de même. Hein.
Mm-hmm.
Aussi d'aller en Antarctique, de regarder ou de faire partie d'un congrès des pingouins. C'est aussi un peu unique, je
absolument
pense.
Absolument inédit, oui, c'est, tout à fait.
Dans ce sens-là, je suis aussi un outsider.
Oui. Oui. Alors, la plupart de ces films, je le reprécise pour ceux qui nous rejoignent, on pourra les voir dès aujourd'hui à la Cinémathèque Suisse de Lausanne, dans un cycle qui vous est consacré, Hans-Ulrich Schumpf. On pourra les voir également en DVD dans un coffret qui va paraître tout bientôt. Et parmi ces films, il y a Ultima Thule, qu'on a évoqué, un film de 2005, dans lequel le narrateur dit « voilà ce qui m'intéresse vraiment, comment fonctionne la vie ». Et je pense qu'on a compris que c'était quelque chose qui vous préoccupait profondément. Dans ce film, la caméra passe par des vues aériennes de paysages d'Alaska extraordinaires, des glaciers, des zones désertiques. Et puis on a des images aussi de microscopes ou de télescopes, de jumelles, d'appareils photo. Le cinéma, c'est aussi une possibilité de réunir comme ça tous ces regards, toutes ces façons de voir le monde.
Tout à fait, parce que le cinéma, c'est un art complet, ça veut dire Gesamtkunstwerk, je ne sais pas le mot en...
Oui, une œuvre d'art totale.
Oui, c'est ça. Comme le cinéma comprend les images, les sons, les mots, les narrations, c'est vraiment tout. Hein. Et dans ce sens-là, on peut réunir le grand cosmos avec le petit cosmos dans une goutte d'eau. On peut réunir avec la recherche des scientifiques en Antarctique qui font des trous dans la terre ou dans la glace pour savoir comment le climat était il y a 200 000 ans. Ça, tous est une partie qu'on peut, ou des choses qu'on peut rassembler dans un film et de raconter une histoire avec.
Oui. Alors, vous avez, on va parler un petit peu de votre parcours, Hans Ulrich Schlumpf. Vous avez fait une formation en littérature, en histoire de l'art. Vous avez travaillé, on l'a évoqué comme ça brièvement, sur l'œuvre de Paul Klee, notamment le peintre Paul Klee. Et vous avez été photographe à Paris très jeune. Qu'est-ce qui vous a amené à Paris pour la photographie?
C'était plus, pas la photographie, c'était déjà là le cinéma. J'essayais d'entrer dans une équipe de Resnais qui faisait préparait dans ce temps-là Muriel. J'avais entendu de cette production et j'ai pensé, naïf comme j'étais dans cette époque-là, j'ai pensé, oui, peut-être il a besoin d'un type qui porte les câbles, comme c'est le cliché. Hein, oui. C'est le cliché. Et j'ai réussi de téléphoner avec lui une demi-heure. Je suis fier d'avoir réussi de téléphoner avec lui. Et il m'a expliqué avec patience pourquoi je suis trop jeune, je ne parle pas assez bien le français.
Pour porter des câbles.
Je n'ai aucune formation cinématographique. Et c'était la crise dans le cinéma français. Et il avait lui-même une équipe assez réduite, et pour ça, c'était impossible, c'était une illusion. Mais c'était la raison pour que j'allais à Paris. Et je faisais la connaissance de Peter Knapp, qui était en ce cas-là, en cette époque-là, le directeur d'art du magasin Elle. Et il m'a proposé, je montrais mes photos et il me proposait de faire une photo par semaine pour un magasin, une photo paradigmatique qui représente un thème dans ce magasin. Le premier thème qu'il m'a donné, c'était mi-carême. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est mi-carême à Paris.
Mi-carême, rappelez-nous.
Mi-carême, c'est une sorte de Fasnacht, de carnaval.
Oui.
Mais il n'existe pas à Paris. Et je devais avoir cette photo et j'avais mis en scène avec des enfants que j'ai trouvés dans la rue. J'ai fait des masques et tout. Et on a dans le jardin de... comment il s'appelle?
Oui, c'est du Luxembourg.
Non, c'est le petit dans le quartier juif. Mais c'est n'importe.
La place des Vosges, non?
Oui, c'est ça, place des Vosges. Et là, j'ai fait une mise en scène avec des enfants et il était ravi de cette photo et il m'a donné la commande de faire chaque semaine pendant une année cette photo. Et comme je vivais très modeste dans ce temps-là, c'était assez pour vivre. Parce qu'elle paye, elle paye bien.
Oui. Mais votre ambition, Hans Ulrich Lumps, c'était toujours, depuis toujours, le cinéma. Parce que, je vous dis ça parce que, en consultant aussi les photographies que vous présentez sur votre site internet, on peut suivre comme ça votre parcours à travers un choix de photographie. On se rend compte qu'à partir du moment où le cinéma vous occupe pleinement, les photographies sont plus là pour documenter votre travail cinématographique qu'autre chose.
Oui, je fais encore des photos, mais c'est plutôt... oui, maintenant plus. Comme j'ai fini de faire des longs métrages, j'ai beaucoup plus de temps de faire des photos. Ça me fascine toujours. Mmh. Mais en même temps, je dois dire, j'étais toujours un photographe amateur, si vous voulez, mais qui avait un certain œil.
Hein. Oui. Mais, alors dans ce parcours, ensuite vous êtes revenu en Suisse et puis vous avez commencé à créer des films et puis vous êtes également engagé dans des institutions, vous avez créé ou en tout cas collaboré à ce qui allait devenir Swiss Film, c'est-à-dire un organisme oui. de promotion du cinéma suisse. Vous étiez vraiment aussi à l'origine avec d'autres de
ce projet-là. Oui, c'était avec Alexander Isailer, oui. René Mertens et des gens comme ça, aussi Tanner. C'était d'une part l'association des réalisateurs suisses qui était fondée par les collègues romans et après Seiler et Marty sont devenus aussi membres fondateurs. Et d'autre part, on avait l'idée de faire un centre suisse du cinéma. C'était plus tard que c'est devenu une agence de distribution dans l'étranger, mmh. mais au commencement, on voulait faire une fondation qui permet de produire des films. Mais on avait des adversaires très, très forts, entre autres Freddy Buach de la Cinémathèque, oui. Mais aussi M. Boissonnat de Pro Helvetia, la Confédération, tous pensaient que c'est mieux de faire ça dans la Confédération.
Oui, dans
et aujourd'hui, je dois dire, aujourd'hui, je dois dire, c'est mieux.
Parce que
c'est contrôlé par démocratiquement.
Oui.
Une fondation a le problème que, après 10 ans, s'il faut des nouveaux membres, c'est les membres existants qui choisissent ça. Mmh. C'est plus un choix politique, c'est un choix individuel, si vous voulez.
Oui.
Et la Confédération garantit tout de même, parce qu'on doit toujours légitimiser c'est beaucoup d'argent qui est dépensé pour le cinéma. C'est juste que c'est comme ça, mais il faut le légitimer mmh. envers le Conseil national et le Conseil des États. Ça veut dire, si ceux ne disent oui, rien ne va plus.
Mmh. Oui. Oui. C'était important à l'époque, Hans Ulrich Lumps, de vous engager, de créer des structures collectives, parce qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose pour les cinéastes qui débutaient comme vous.
Tout à fait. C'était, vous savez, on se connaît tous.
Oui.
On avait des très bonne relation avec la Suisse romande, avec Tanner, avec Yersin, avec Goretta, un peu moins, mais avec Goretta aussi, avec Souter, qui n'était pas très politique, mais Tanner surtout était un homme politique. Et en Suisse alémanique, c'était tous les cinéastes, Freddy Moore, Georg Radanovich, tous étaient ensemble pour lutter pour un encouragement vraiment fonctionnant pour le cinéma. Mmh. Et on a battu cet encouragement qui est aujourd'hui pour les jeunes, elle est là.
Hein? Oui.
Ils se mettent dans un nid fait.
Absolument.
Dans l'époque, il n'y avait rien. Mmh. Ça veut dire qu'il faudrait faire un travail politique chez les conseillers nationaux, chez les conseillers d'État, chez les conseillers fédéraux. On a commencé avec Judy. C'était le premier que j'ai rencontré. J'ai rencontré presque tous les conseillers fédéraux pendant ma carrière pour lutter pour cet encouragement. Mmh. Et c'était la même chose avec la SSR. Ça veut dire qu'il y avait des grands débats pour libérer de l'argent aujourd'hui dans le pacte de l'audiovisuel qui est réservé pour faire du cinéma.
Et quand on œuvre comme vous, Hans-Ulrich Schlumpf, dans un domaine qui est parfois considéré comme du cinéma documentaire, j'imagine aussi qu'on vous demande des thématiques suisses, ou en tout cas des liens avec ce pays. Et cette appartenance à la Suisse, j'ai le sentiment qu'elle est présente de différentes manières dans vos films. Parfois, certains sont tournés en Suisse, le thème est tout à fait suisse, et parfois c'est plutôt peut-être l'esprit suisse que vous interrogez à travers vos films, ce rapport très particulier qu'on a à l'autre, à l'étranger, au voyage, c'est quelque chose qui vous passionne?
Oui, absolument. Et c'était un air dans Le Retour d'Afrique qui a dit « Les Suisses vont à la gare, mais ils ne partent pas. Oui. » Et moi, je voulais partir. Oui, c'est vrai. Et je voulais aussi faire quelque chose pour la Suisse. Dans la Suisse, par exemple, Umbruch sur les imprimeries, Anne Cugnot a donné un titre génial, Le Marbre en pièces, c'est la version française. Mais je voulais aussi, fuir de cette Suisse petite, cette Suisse serrée.
Oui, serrée. Absolument. Oui, oui. Et cette façon de fuir, il y a quelque chose qui est très suisse aussi, on peut le dire, c'est de fuir par le rêve. Et le rêve, c'est un thème que vous avez beaucoup exploré dans vos films. Le voyage est un rêve. Dans le Congrès des Pingouins, tout part d'un rêve à partir d'une situation de ville. On s'évade par le rêve dans cette Antarctique. Et puis dans Ultima Thule, c'est l'expérience de mort imminente, comme on dit, et qui est aussi une forme de rêve. Plus généralement, c'est aussi votre façon d'envisager le cinéma et la structure d'un film où on part d'une situation, on part dans le rêve et on revient à la situation, peut-être transformée par le rêve.
Je ne sais plus qui a dit ça, peut-être Buñuel ou quelqu'un comme ça, que le cinéma, c'est l'art du rêve. Ça veut dire, c'est tout le rêve a une signification très très c'est très lié au cinéma, je pense. Oui. Parce que le rêve fonctionne aussi avec un régisseur. On ne sait pas qui est le régisseur. Non, c'est le metteur en scène. En français, le régisseur, c'est
oui,
autre chose.
Oui, metteur en scène, absolument.
C'est le metteur en scène. Il y a dans notre tête un metteur en scène qui fait le rêve dans nous. Et j'ai noté des milliers de rêves dans ma vie. Et, parce que j'ai aussi fait... J'ai beaucoup travaillé sur la psychoanalyse et sur la psychologie analytique de Sege Jung. J'ai aussi avait un projet d'un portrait sur Sege Jung, mais c'est pas réalisé. Oui. Mais en tout cas, les rêves ont une fonction fondamentale dans ma vie.
Dans Transatlantique, Hans-Ulrich Schlumpf, et ce sera ma dernière question, un des personnages dit que notre idéal, celui qu'on se donne, dit beaucoup sur ce qu'on veut connaître de soi-même. Votre idéal à vous, qui vous a appris qui vous êtes, est-ce que c'était le cinéma?
Oui, peut-être. C'est une sorte de psychanalyse avec moi-même. Non, mais le cinéma, c'est toujours aussi quelque chose de très concret. Pour faire les images, pour construire une narration et tout ça, c'est très concret. Hein. Le rêve, faire le rêve, c'est très concret. C'est un métier, oui. C'est une profession.
Absolument.
Et j'avais la chance de travailler avec des gens comme Pio Corradi, un caméraman comme Ciccio Berta en Suisse romande, c'est le même niveau. J'ai aussi des autres collaborateurs comme Fay Liechti qui a monté tous mes films. Ça, c'est un psychoanalyste.
Oui.
Travailler avec une monteuse sur le Congrès des Pingouins 9 mois.
Oui.
9 mois pour finir. Hein. Ça, d'ailleurs, c'est impossible dans la production normale. C'est seulement possible si vous produisez votre film vous-même.
Oui.
Parce que normalement, un producteur dit, mais laisse-moi,
c'est trop, c'est impossible.
C'est fou. Qu'est-ce que tu penses? C'est faire un enfant, mais pas un film. Mais un film est un enfant. Ouais.
Un bel enfant. Merci beaucoup, Hans-Ulrich Lumpf, d'être passé par Vertigo. Je rappelle donc, rétrospective de vos films à la Cinémathèque Suisse à Lausanne dès aujourd'hui jusqu'au 31 octobre. Aujourd'hui, à 18h30, ce sera Ultima Thule et à 21h, le Congrès des Pingouins. Vous serez pour les deux projections.
Oui, je suis là.
Vous serez là.
Merci Nicolas.
Merci
à vous. C'était très animé.
Mais plaisir partagé. Et puis ce coffret de 8 DVD, la collection Hans-Ulrich Lumpf, apparaître en novembre. Alors bien du plaisir avec ces projections et bon week-end à vous.
Merci beaucoup.